Welcome to the debate, notre espace d'analyse croisée et de confrontation d'idées. Le 10 avril 2022, le parti qui a donné à la France deux présidents s'est retrouvé à faire la manche à la télévision pour rembourser ses frais de campagne.
Valérie Pécresse sous la barre des 5%, oui, c'est du jamais vu.
C'est ça, un effondrement fracassant. Et le Parti socialiste, lui, finit à 1,75%. Donc aujourd'hui, on décortique cette mort du bipartisme et l'émergence de trois blocs irréconciliables. Moi, je suis convaincu que c'est une mutation pérenne, brillamment orchestrée par les choix stratégiques de certains candidats.
Et moi, je suis prête à parier que c'est tout l'inverse. C'est une distorsion conjoncturelle, une illusion d'optique provoquée par la guerre en Ukraine et l'absence totale de débat démocratique.
Alors, pour moi, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Ukraine. Si c'était juste une panique conjoncturelle, pourquoi l'extrême droite s'est-elle restructurée avec une telle précision chirurgicale? Marine Le Pen fait plus de 23%. Et elle n'a pas fait campagne sur la géopolitique, mais sur le prix à la pompe.
Elle a laissé la controverse à d'autres.
Exactement. Elle a consciemment laissé la rhétorique identitaire à Éric Zemmour, qui s'écrase à 7%. Pendant qu'il monopolisait les plateaux télé, elle labourait le terrain de l'inflation, des factures de gaz. C'est cette stratégie de contournement qui a aspiré l'électorat populaire.
Je vous l'accorde volontiers, la campagne de terrain était efficace. Mais vous omettez l'impact mécanique du silence présidentiel. On ne peut absolument pas analyser ce premier tour sans comprendre l'état psychologique du pays ce jour-là. La guerre éclate aux portes de l'Europe et Emmanuel Macron endosse immédiatement l'uniforme du chef des armées.
Il a géré la crise, c'est le rôle d'un président sortant.
Oui, mais il limite sa campagne à quoi? Un seul véritable meeting à Nanterre? Il coupe court à toute confrontation d'idées. En substituant le débat par la communication d'État, il a artificiellement gelé le paysage. Les partis traditionnels ont besoin de débattre du bilan économique pour exister. Là, on les a privés d'oxygène. C'est un vote de crise dicté par la peur.
Un vote de crise, d'accord, mais la carte électorale qui émerge ce soir-là, elle ressemble pas du tout à un gel temporaire. C'est la collision de trois plaques tectoniques massives, un centre macroniste, une droite radicale lepéniste et une gauche mélenchoniste.
Des plaques massives, vous y allez fort.
Ces trois blocs ont exercé une force de gravité si intense qu'ils ont broyé l'ancien monde. Une simple anomalie liée à l'absence d'un ou deux débats à la télé, ça produit pas une telle annihilation. Chaque pôle regroupe un tiers de l'électorat et ils se regardent sans jamais se parler. C'est bien la preuve que le bipartisme est un cadavre, non?
Un cadavre, oui. Mais ces fameuses plaques tectoniques ne sont pas du tout aussi denses que vous le prétendez. Prenez le cas de la gauche. Vous présentez ce troisième bloc, la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, comme une force idéologique super solide. Les chiffres disent l'inverse.
Attendez, comment vous pouvez dire ça avec un score de près de 22%? Il a imposé sa propre force de gravité, c'est indéniable.
C'est justement là que la mécanique du vote utile intervient. Mélenchon n'a pas rassemblé 22% de convaincus sur son programme. Il a siphonné, à la toute dernière minute, les voix des électeurs écologistes et socialistes terrifiés.
Terrifiés par le face-à-face Macron-Le Pen, oui.
Voilà. Et d'ailleurs, il lui a manqué exactement 420 000 voix pour dépasser Le Pen. Ce n'est pas l'émergence d'un bloc uni, c'est la définition même d'un vote détresse arrivé trop tard.
C'est un argument de poids, je le reconnais. C'est vrai que la fragilité de ce bloc s'est vue le soir même. Devant ses militants, dont certains étaient en larmes, il n'a pas fait de grand discours de refondation idéologique.
Non, il a donné une consigne défensive.
C'est ça, il a martelé quatre fois de suite depuis son pupitre, pas une voix pour l'extrême droite.
Exactement. Ce n'est pas du tout l'affirmation sereine d'un nouveau pôle prêt à gouverner. C'est une réaction de survie. Le bloc de gauche n'est pas né d'une adhésion massive, mais vraiment de la peur du vide créée par une campagne anesthésiée.
Donc, au final, notre analyse bute sur cette tension. D'un côté, on a l'efficacité implacable d'une stratégie axée sur les factures de gaz, qui a capitalisé sur les fractures sociales, et de l'autre, la paralysie d'un système démocratique figé par l'ombre d'une guerre qui force des regroupements dans l'urgence.
Tout à fait. Mais même si nous divergeons sur les causes profondes, je pense qu'on arrive au même constat clinique. Le balancier classique entre la gauche et la droite qui structurait la France depuis un demi-siècle a définitivement disparu.
C'est une certitude. Reste alors à se demander si l'équation de ces trois blocs silencieux pouvait être résolue au second tour ou si elle était vouée à s'aggraver. C'est une dynamique inédite et il reste encore beaucoup à explorer dans les rouages de cette élection.